Je vais avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que je sois en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Canu, il est l'heure d'un petit Canu Info. Alors ce soir nous allons parler du Burundi, nous parlerons aussi de la Turquie et du génocide des Arméniens. Nous parlerons un petit peu des barbares cette semaine, bon et pas bon, hein, c'est un petit peu ça l'idée. On parlera des gay pride à travers trois exemples, on parlera de sexisme ordinaire avec un prix Nobel. Nous parlerons des patrons contre les salariés, on parlera de répression policière contre des militants de la cause palestinienne. On parlera de ce qui s'est passé en toute discrétion à l'Elysée. On parlera de TAFTA, on parlera de l'Indonésie et du paquet de cigarettes neutres. Et oui, qu'est-ce que tout ça a à voir? On parlera du monde agricole. Et puis nous finirons par un hommage.
Un au revoir en tout cas.
Un au revoir, tout à fait.
Commençons donc par une petite info africaine. On a déjà parlé un petit peu du Burundi. On suit un petit peu la situation hein, dans ce Canu Info. Donc je vous rappelle les faits d'aujourd'hui. Je ferai aussi un petit résumé du coup pour ceux qui n'ont pas en tête tout ce qui s'est passé dans l'histoire récente du Burundi. Donc là, l'histoire, c'est sur les principales radios et télévisions privées du pays hein, qui demeurent sous le coup d'une enquête judiciaire et dont les locaux aujourd'hui sont gardés par la police. C'est-à-dire que les différentes équipes ne peuvent plus rentrer dans les locaux des radios et des télévisions privées qui s'opposaient forcément au régime. Tout est bloqué. Alors aujourd'hui, ou hier plutôt, le procureur de la République, Valentin Bagori Kunda, a adressé une lettre à la présidente de la Maison de la Presse autorisant la réouverture de la station radio de la Maison de la Presse qui est pas mal utilisée. Alors là, on se dit, ouais, c'est une bonne nouvelle, sauf que c'est pas une si bonne nouvelle que ça, puisque est précisé que pour des raisons d'enquête judiciaire, tout le personnel de Radio Bonesha FM, Radio Télévision Renaissance, Radio RPA, Radio Insanganiro, etc., etc., grosso modo, toutes les radios privées d'opposition n'ont pas accès à la réouverture de cette maison de la presse. Donc c'est une nouvelle atteinte à la liberté d'expression qui est mise en œuvre par le gouvernement du président actuel, monsieur Pierre Nkurunziza, hein, qui veut pas lâcher le pouvoir, ça on l'a bien compris, et du coup toute l'information autour des répressions, des abus commis par les forces de sécurité, par les milices de gouvernement, toutes les arrestations arbitraires, les violences, tout ce qu'on pu être déjà mis quand même en avant par quelques associations de droits de l'homme, et ben les journalistes ont du mal à avoir l'information, et surtout ils l'ont, mais à la faire passer à la population. Donc la population reste dans la désinformation, puisque les seuls médias autorisés sont les médias pro-gouvernement. Alors la question qui se pose dans ce contexte-là, quelle légitimité pourront avoir les élections qui vont avoir lieu fin juin, mi-juillet, hein, tel que ça a été annoncé par le dernier changement du calendrier électoral. Donc voilà, on est quand même très inquiet. Alors il y a une deuxième couche, hein, de maintien du pouvoir sur l'information, puisque même au sein des radios publiques, ou notamment sur la radio nationale, où il y avait quand même un discours qui était assez pluraliste, hein, puisque les journalistes avaient invité quelquefois l'opposition, ils annonçaient même certaines manifs. Là, il y a une grosse reprise en main de la part du gouvernement, puisque il y a eu une certaine purge. Alors soit les journalistes sont déplacés, par exemple. Ceux qui étaient en charge de la rédaction de l'information se retrouvent à la formation interne, hein, donc plus du tout en lien avec leur métier de journaliste directement. Le rédacteur en chef a subi des pressions. Voilà, c'est un peu pareil d'ailleurs pour la télé nationale, qui de toute façon est restée, elle, plutôt la voix de son maître, la voix de monsieur Nkurunziza. Donc voilà. Alors, je reviens quand même sur la situation pour ceux qui n'ont pas tout saisi ce qui se passe au Burundi. Alors c'est toujours bien évidemment Pierre Nkurunziza qui essaye d'arracher un troisième mandat, ça devrait être le 26 juin prochain peut-être ou pas, donc en violation des accords de paix, donc les accords de paix, ils portent le nom d'Arusha, qui a engendré ensuite une constitution pour sortir ce petit pays d'Afrique centrale de la guerre civile. Si je refais un petit bout d'histoire, en octobre 93, l'assassinat du premier président burundais démocratiquement élu, c'est un Hutu. Alors vous allez voir que c'est un peu comme en Rwanda, il y a Hutu contre Tutsi. Donc ça va être aussi difficile à comprendre quand on n'est pas, quand on suit pas l'information, parce que ça nous parle évidemment pas. Mais vous allez voir que c'est un petit peu les mêmes enjeux et les mêmes moyens de pression, en tout cas l'ethnisation artificielle de la société burundaise par les gouvernants, qui crée toutes ces tensions. Donc là, on est en 93. Le premier président démocratiquement élu s'appelle, c'est un Hutu, donc s'appelle Melchior Ndadaye. Donc lui, il est assassiné par des militaires Tutsi, qui est donc les putschistes, pour prendre le pouvoir. Ça lance une grosse guerre civile qui va durer 13 ans, 300 000 morts. Alors, pareil, guerre civile, ça veut dire des Hutus et des Tutsis. Le pays sort ravagé. Le 28 août 2000, sous l'égide du Sud-Africain, qui était donc président à l'époque, Nelson Mandela, sont signés ces fameux accords d'Arusha qui prévoient un système un peu à la libanaise, donc un système de quotas garantissant un peu l'équilibre des Hutus et des Tutsis au sein de l'armée, de l'administration, de la représentation politique. Alors ce système est certes artificiel, mais a priori, c'est ce qu'ils ont trouvé pour essayer de rentrer dans une spirale de paix. Alors, plein de gens avaient critiqué, mais bon, jusqu'à maintenant, c'était arrivé à tenir. Alors, Pierre Nkurunziza, hein, qui était leader à l'époque d'un gros mouvement rebelle, a mis du temps, mais il a rallié en 2003 cet accord de paix. Son mouvement s'appelle le Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force pour la Défense de la Démocratie, c'est les deux noms à coller, donc ça fait des initiales à rallonge, CNDD-FBB, si vous voyez ces initiales, c'est le parti de Pierre Nkurunziza. Donc lui, voilà, il signe en 2003, en 2005, il est élu président de la République pour un premier mandat qui se passe plutôt pas mal, et en 2010, il est à nouveau réélu, mais là dans une élection qui ressemble à tout sauf à une élection, c'est-à-dire qu'il est seul candidat quasiment face à une opposition qui est désorganisée, qui a peur, hein, parce qu'il a déjà fait preuve d'un peu d'autoritarisme, M. Nkurunziza. Et ce second mandat, qui est en train de s'achever, a complètement terni l'image de Nkurunziza, que ça soit au niveau de la politique qu'il a mis en œuvre, mais aussi de la corruption assez généralisée au sein de l'État, et surtout l'ethnisation qu'il a remis en œuvre pour opposer Hutu contre Tutsi. Et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire essayer de museler l'opposition. Alors, quand il a annoncé vouloir être candidat à un troisième mandat, dans son propre parti, l'avis des sages a été négatif. Mais il a trouvé le moyen avec ses miliciens qui s'appellent les Imbonerakure, ça veut dire la Ligue de la Jeunesse du Parti. Il est arrivé à faire pression et à encadrer quelque part un congrès extraordinaire qui a validé donc son troisième mandat pour se présenter à cette élection. Et ensuite, pareil, pression contre les membres de la Cour constitutionnelle qui ont validé ce troisième mandat alors que la Constitution ne l'autorise pas. Donc voilà, on en était là, s'ensuit une grosse mobilisation. Il faut dire que la société civile burundaise existe, hein. Il y a des discussions, il y avait quand même des médias libres, privés, qui sont pas des médias d'État. La population est sensibilisée et il y a des manifestations qui ont engendré la violence qu'on a vue ces derniers jours. Alors, juste pour rappeler un petit peu qui était Nkurunziza, donc il est le fils déjà quelqu'un de l'intelligentsia, hein. C'est pas quelqu'un qui est issu du peuple, puisqu'il est fils d'un député. Voilà, il a participé donc à la rébellion. Il a l'air assez sympa, en fait. Ce qui est intéressant, il est voilà, quand il parle comme ça, il a une expression ou l'impression qu'il est gentil, parce qu'il sait très bien faire les choses. Sauf que quand on analyse les propos de son discours, c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins sympa. D'abord, il l'oppose toujours Hutu et Tutsi. Hein. Par exemple, il a expliqué que les quartiers qui se rebellaient contre lui, c'était les quartiers Ima. Alors Ima, c'est le mot qui est synonyme de Tutsi, qui est quand même ultra raciste, hein, qu'il utilise tout le temps. Ses opposants, il les appelle des Iskatani, ça veut dire le diable. Qu'il faut, je cite, Kumeza, ça veut dire les ou éliminer, enfin une propagande qu'on avait déjà entendue avec les mêmes termes au Rwanda, hein, à l'époque du génocide, que lui il réinstrumentalise et réutilise, ce qui explique en partie les manifestations. À savoir que les manifestations, elles n'étaient pas ethniquement uniques. Il y avait à la fois des Tutsis, des Hutus qui s'opposent à ce président hégémonique et autoritaire. Lui, il essayait de dire que c'était pas ça du tout, mais dans la réalité, la mobilisation, elle était dans les deux ethnies, hein, pour montrer qu'il y a quand même avant tout une défense de la démocratie et que l'ethnisation qu'il essaye d'instrumentaliser a pas totalement fonctionné encore au Burundi. Bon, il y a eu le 13 mai la tentative de putsch, ce qui lui a permis de reprendre en main le pays, de fermer les radios privées et de bloquer tout le système. Alors, qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui? Quelles sont les pressions possibles? Il y a eu un colloque, hein, le 31 mai avec pas mal d'avocats qui se sont exprimés, qui ont expliqué que vu ce qui se passe actuellement, on peut qualifier les répressions de crimes de guerre. Donc il y a des les avocats et les assos réfléchissent à déposer des plaintes d'abord en France sous les règles de la compétence universelle pour faire condamné ou au moins accusé Pierre Nkurunziza de torture, et puis aussi peut-être aller devant une commission internationale, un mandat international, une cour pénale internationale pour essayer de faire condamner le gouvernement de Pierre Nkurunziza et les flics, hein, qui massacrent à tour de bras. L'Union européenne pourrait aussi faire pression, puisque dans l'article 96 de l'accord de Cotonou, il y a normalement une suspension de l'accord, de la coopération européenne, en cas de manquement à une obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'état de droit. Bon, ces trois obligations sont vraisemblablement pas respectées aujourd'hui par le gouvernement du Burundi. Bon, pour l'instant, l'Union européenne n'a pas basculé dans le camp des sanctions, enfin, en tout cas, de l'arrêt de cet accord. Mais on en parle, donc c'est peut-être ce qui pourrait arriver dans les semaines qui viennent, et ce qui serait un bon moyen de pression quand même pour, et puis de soutien aussi aux démocrates burundais.
Alors je vous parlais de la Turquie, du Brésil et du génocide des Arméniens. Pourquoi? Parce que c'était mardi de la semaine dernière, nous étions le 2 juin, la résolution portée par deux sénateurs de l'opposition, c'est-à-dire du Parti Social-Démocratie brésilienne, excusez-moi, c'est la social-démocratie. Cette résolution a été approuvée par 55 des 80 sénateurs et permet la reconnaissance du génocide arménien. Alors évidemment, tout cela n'a pas plu au gouvernement turc qui a annoncé lundi le rappel de son ambassadeur au Brésil pour consultations. Alors il faut savoir qu'il y en a du monde aux consultations, puisque ces dernières semaines ont déjà été rappelés les ambassadeurs au Vatican, en Autriche et au Luxembourg. Voilà, donc ceux et celles qui pensaient qu'on allait vers du mieux à un moment... C'est pas vrai, hein. On va plutôt vers du pire, hein, avec la Turquie sur cette question, puisque le gouvernement turc, à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères, a expliqué que la résolution du Sénat brésilien déforme les réalités historiques concernant les événements de 1915. Donc voilà, pas d'avancée. Pas du tout.
Ceci dit, comme le gouvernement de M. Erdogan vient de prendre une claque électorale, hein, il s'attendait à avoir une énorme majorité à l'Assemblée et ils l'ont pas du tout. Peut-être qu'il va mettre de l'eau dans son vin aussi, même si on n'est pas sûr que les autres partis, hein, qui ont gagné pas mal de voix, notamment les Kurdes, soient là pour défendre non plus le génocide arménien. C'est pas gagné non plus. C'est à moi, oui.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout. Vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Alors effectivement, nous allons parler des barbares, donc ces États qui pratiquent encore la peine de mort. Et là, on va faire une double information autour d'un seul État qui pratique la peine de mort, les États-Unis d'Amérique. Avec une très bonne nouvelle, une bonne nouvelle en tout cas, puisqu'il y a un noir américain qui sont majoritaires dans le couloir de la mort aux États-Unis, 12 ans qu'il attendait dans les couloirs de la mort, et il n'a pas été assassiné par l'État, mais libéré. C'est quand même pas mal. Alors, bon, il n'est pas tout à fait encore libre. Mais en tout cas, il est déjà innocenté. Il faut le temps après que l'administration se mette en œuvre, mais ça va arriver d'ici quelques jours. Donc, il explique, donc il s'appelle Alfred DeWay Brown. Je suis rentré ici en homme innocent et j'en ressors en homme innocent. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres comme moi. Malheureusement, c'est sûrement le cas aussi. Il a sûrement raison. Donc, en tout cas, l'info qui a été donnée par le procureur du comté de Harris, qui s'appelle Devon Anderson, a annoncé donc avoir abandonné toutes les charges contre ce noir américain et renoncé à tout nouveau procès. Pourtant, il y avait eu des incitations pour faire un nouveau procès. Là, non, elle dit, il n'y a rien dans le dossier. On arrête, cet homme est innocent. Donc, il a été condamné, pour info, à mort en 2005 pour le meurtre de deux personnes, dont un policier, lors de l'attaque d'une petite succursale bancaire en 2003. Il a toujours clamé son innocence, parce qu'il dit qu'il se trouvait dans l'appartement de sa petite amie au moment des faits. Et... il y a une preuve sur ça. Il y a un coup de fil qu'il a donné, il regardait la télé, il entend parler de la fusillade donc qui a lieu en direct quasiment dans cette succursale bancaire, il prend son téléphone et il appelle quelqu'un pour parler de la fusillade. Donc il y a, dès le début, le relevé téléphonique qui prouve que lui a téléphoné au moment de la fusillade, qu'il était dans cet appart-là, parce que c'était pas un téléphone portable, et la justice, l'accusation... la police a dissimulé la preuve. C'est donc un coup monté, hein, essentiellement de l'accusation d'ailleurs. L'accusation, c'est ça, c'est la police, l'État et la justice. Donc voilà. Grosso modo, la petite amie de Brown avait témoigné contre son ancien ami suite aux pressions de la police. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule, on va dire, sur cette affaire. Il n'y avait pas de preuve, ils ont dissimulé la seule preuve qu'il y avait, et en plus ils ont fait pression sur sa petite amie pour qu'elle le balance. Donc voilà, alors à noter que c'est quand même le 154e prisonnier du couloir de la mort qui est innocenté depuis 1973. Je vous parle pas de ceux qui ont été assassinés, qui était innocent, et beaucoup étaient peut-être coupables aussi, mais ils ne méritaient, j'imagine pas, la peine de mort. C'est le 13e au Texas, puisque nous sommes dans ce magnifique État qu'est le Texas, hein, l'État qui assassine le plus ses ressortissants, ses habitants. Donc voilà, il explique après que il a passé sa vie donc dans le couloir de la mort, 12 ans très exactement. Il explique que c'était dans une sorte de cage de chien. Il a jamais pu voir sa fille. Alors faut savoir que quand il est rentré en prison, sa fille avait un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans. Donc il a raté toute l'éducation de sa fille, toute la vie de sa fille. Et on notera qu'il sera sûrement rien fait contre ceux qui l'ont mis en prison. qui ont fait un crime beaucoup plus grand que lui il avait fait, puisque lui il n'avait rien fait, et qui eux n'auront aucune sanction judiciaire. Alors, deuxième info, qui est moins sympa. Alors, c'est pas sur la peine de mort, c'est sur la prison, mais la prison qui ressemble à de la peine de mort. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va parler d'Albert Woodfox, qui est un prisonnier américain, noir américain, détenu dans une prison depuis 43 ans. 43 ans, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça fait quand même un certain temps. Il a aujourd'hui 68 ans, il est dans un sale état, il a demandé sa libération. Et effectivement, un juge, je vais dire très exactement, le juge fédéral James Brady a demandé sa libération immédiate et sans condition lundi dernier. Et tout de suite, le procureur général de Louisiane a fait appel de la décision. Alors tout le monde, le soir même, pensait qu'il allait enfin être libéré et pouvoir mourir dehors, hein, parce que du coup c'est ça qui va lui arriver. Eh ben non, ils ont fait appel. Bon, ça montre vraiment la monstruosité de ces producteurs dans ces états du sud des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, alors bien évidemment, il a tué plein de gens, hein, forcément, pour être en prison. C'est pas sûr en fait, puisque donc il a fait partie des Black Panthers, c'est-à-dire des mouvements de résistance contre le racisme que faisait subir et que font subir encore une partie des blancs sur les noirs américains. Donc il avait été condamné d'abord pour des affaires de vol avec violence, et ensuite il y avait eu un accident dans la prison, un gardien était mort et il avait été reconnu coupable du meurtre, et là alors condamné à perpétuité. Il a toujours clamé son innocence, et Amnesty International faisait remarquer qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait participé à ce crime à l'intérieur de la prison. Donc voilà, il a été condamné par un maton qui ne l'aimait pas et qui a dit oui, c'est lui. Voilà, ça repose que sur ça. Il n'y a pas de description même du maton qui dit je l'ai vu faire ça, pas du tout, mais qui dit juste c'est lui. Donc il est presque libéré, mais pas tout à fait. Alors il y a quand même des chances que le procureur général de Louisiane ne puisse pas aller très loin, le seul espoir qu'a ce pauvre militant de la cause noire américaine, c'est de pouvoir mourir en dehors de la prison, parce qu'il est très malade, il a 68 ans et il a passé 43 ans en prison, ce qui est déjà plutôt pas mal comme torture, on va dire.
Alors maintenant, on va parler de Gay Pride. On va partir dans trois villes. On va parler déjà de celle qui s'est déroulée samedi. C'était à Kiev, en Ukraine. Alors on peut dire que la Gay Pride 2015 a connu les mêmes violences qu'en 2013. Les choses se répètent, bien malheureusement. Alors, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies dans un lieu qui avait été dévoilé au dernier moment, loin du centre-ville. Tout ça pour éviter les problèmes et les affrontements. Mais il faut savoir qu'avant même que le défilé ne démarre, les fachos ont attaqué les manifestants. Amnesty International rapporte qu'il y a une dizaine de manifestants qui ont été blessés. Alors, pour revenir un peu en arrière, il faut savoir qu'en 2012, c'était le premier appel pour cette Gay Pride. La police avait demandé aux organisateurs d'annuler la marche 30 minutes avant le départ, tranquillement. Mais il faut dire qu'il y avait 500 fachos qui avaient décidé de casser la gueule aux manifestants et aux manifestantes. Ils s'étaient fait, et elles s'étaient fait tabasser, mais vraiment sévèrement. À l'époque, face aux protestations, aux remarques au niveau international, les autorités ukrainiennes avaient accepter de garantir la sécurité du défilé en 2013. Ça s'était pas bien passé en 2013, et pourtant il y avait un cordon de haute surveillance, mais ça s'était mal passé. En 2014, le maire de Kiev, fraîchement élu, avait demandé l'annulation. Il avait expliqué que les forces de l'ordre ne protégeraient pas le défilé, et cette année, le maire avait demandé encore une fois l'annulation. Les militants et les militantes ont décidé quand même de maintenir cette marche. Il faut dire qu'à chaque fois, les autorités prétextent les violences, mais en même temps, les assument pas et les laissent faire aussi. Donc c'est un double discours. Un discours que moi, j'ai repéré, c'est celui du président ukrainien, Monsieur Poroshenko, qui, vendredi, a exprimé son soutien à la Gay Pride. Il a expliqué, j'observe la marche de l'égalité à la fois en tant que chrétien et en tant que président européen. Je pense que ces deux idées sont tout à fait compatibles.
Ouais. Ce qu'on notera quand même du coup avec l'intervention de ces fachos qui bloquent tout, c'est quand même le point commun. On dit toujours Kiev est opposé aux Russes en ce moment sur la frontière avec les rebelles, les séparatistes, qu'on appellera plutôt des nationalistes, mais en fait ils ont un énorme point commun sur l'homophobie, hein, parce que même si Porochenko a fait un truc un petit peu gentil, grosso modo, c'est enfin les populations restent quand même assez peu sensibles à la cause homosexuelle. Et en Russie, c'est quasiment, c'est carrément interdit dans plein d'endroits les gay pride. Voilà, la répression. Et ces pays du Nord sont restés dans les traditions russes de racisme et d'homophobie. Et malheureusement, malgré l'européanisation qui est condamnée par ceux qui défendent la présence russe, eh ben, a pas fonctionné en tout cas sur les mœurs.
Alors on va parler de celle qui doit se dérouler se dérouler le 20 juin prochain à Lyon, tout à fait. C'est une marche qui va partir à 14h place Bellecour, donc le 20 juin. Alors cette année, il y a encore des histoires avec le parcours, bien évidemment, hein, mais de toute façon, ça, il faut s'y attendre maintenant sur toutes les manifestations d'une manière générale. C'est que la lesbienne Gay Pride de Lyon avait demandé à passer par le Vieux Lyon, ce qui a été refusé par la préfecture du Rhône, qui explique que ça cause des... il y a des problèmes de troubles à l'ordre public, que en fait il y aurait trop de manifestants, trop de personnes dans cette marche, donc ça entraînerait des problèmes de sécurité, hein. Ils ont expliqué ça à 20 minutes qui a interrogé la préfecture. Ce que certains et certaines reprochent, c'est que il y a un petit peu deux poids deux mesures, puisque les intégristes anti-GPA se sont rassemblés lundi soir, ils étaient très nombreux et a priori ça n'a pas eu l'air de vraiment gêner que ça se passe dans le Vieux Lyon, malgré les problèmes à l'ordre public. Donc ça veut dire que ce Vieux Lyon est laissé donc, voilà, aux fachos. C'est un peu, enfin c'est le message, hein, qui est transmis avec ce discours, parce qu'on veut bien entendre 18 000 personnes, c'est les chiffres qu'ils annoncent dans les petites rues, c'est pas bien, c'est pas beau, sauf que c'est pas les premiers et les premières à demander à passer par le Vieux Lyon, et c'est pas les premiers et les premières qui se font rembarrer.
Il faut le dire quand même. Il y a une idée symbolique de passer dans le Vieux Lyon, parce qu'effectivement on sait qu'il y a une présence de l'extrême droite et des fachos très importantes. Et là, effectivement, le préfet donne son soutien quelque part en validant la présence, que ce quartier appartient à l'extrême droite et pas aux progressistes. Voilà, c'est ça que le préfet laisse entendre. Et c'est relativement grave quand même dans un État comme la France qui est censé être un tant soit peu progressiste. Surtout qu'on rappellera quand même pour tous ces petits fachos que l'homosexualité n'est pas interdite en France.
Alors, on va partir maintenant ailleurs. On va partir à Séoul. Et alors là, aussi ça. C'est vraiment difficile de partout, hein. C'est pour ça que j'ai pris aussi un peu ces exemples. Il y a des endroits où ça se passe bien, je vous rassure, hein. Il ne faut pas hésiter à y aller. En France, il y a déjà les premières marches qui ont commencé, ça se passe bien, il y a du monde, c'est chouette. Cette marche est prévue le 28 juin prochain, ça sera un dimanche. Et là, ce sont les groupes chrétiens évangélistes en particulier qui viennent perturber ce déroulement. Ils ont décidé de faire une contre-manifestation sur le même trajet, le même jour, à la même heure. Je vous dis pas dans quel état ça va se dérouler à Séoul, parce que c'est vite violent, hein, quand même, les manifestations là-bas. Alors bon, pourquoi aussi sont très virulents en ce moment ces groupes évangélistes? Parce que le maire de Séoul a déposé l'année dernière un projet de charte sur les droits de l'homme qui inclut la protection des homos, des lesbiennes et des trans. Ça plaît pas du tout. Donc en fait, ils campent maintenant tous les jours devant la mairie. Ils manifestent tout le temps. Ils l'ont surnommé le maire de Sodome. Non, mais si vous voulez dire quand même le niveau. Donc là-dessus, pour éviter les problèmes, les autorités et la police annoncent l'interdiction, l'annulation de cette marche. Mais les organisations ont déjà prévenu que elles seraient dans la rue et que rien ne pourrait les arrêter. Bon, ça risque d'être très très chaud quand même, encore une fois, et ça risque encore une fois de pas bien se passer.
Ouais, surtout vu la présence importante des mouvements évangéliques en Corée du Sud.
Ouais, alors surtout qu'ils sont très très proches, hein, puisque vous savez, chaque candidat a son église, et ce sont des églises qui sont absolument gigantesques. C'est des dizaines de milliers de personnes dans un même lieu, donc oui, c'est une force électorale, c'est une force très très importante, cette force religieuse. Et elle crée vraiment un contrepoint à tout développement de la société sud-coréenne, parce qu'il connaît aussi un fort sexisme. Et c'est comme ça que j'enchaîne tout de suite, puisqu'on continue. Et c'était en Corée du Sud, à une conférence. C'est un monsieur, il est prix Nobel de médecine, il l'a eu conjointement avec deux autres chercheurs en 2001. Il s'appelle Timothy Hunt, il est britannique, et il a fait une sortie charmante sur les femmes. Il a expliqué: trois choses se passent quand elles sont dans les labos. Vous tombez amoureux d'elles, elles tombent amoureuses de vous, et quand vous les critiquez, elles pleurent.
Ah, c'est sympa. Et jamais il a imaginé qu'elles étaient chercheuses, qu'elles pouvaient avoir. Non, c'est
non,
juste
mais
ça.
Que même, juste rien. Ouais, voilà.
Juste rien.
Voilà, juste que les femmes, on pleure pas à tout bout de champ.
Bon,
hein.
Ça a fait réagir.
Bon, ça a fait réagir dans la communauté scientifique et bien au-delà, ce qui a provoqué sa démission, certainement un peu forcée hier, ouais. De son poste de professeur honoraire à la faculté des sciences de la vie à l'université College London, of London, pour être précise, à l'UCL. Pourquoi je dis un petit peu forcée, puisque la direction de l'université s'est tout de suite désolidarisée de Monsieur Hunt et a rappelé que c'était la première université anglaise à avoir accueilli les étudiantes dans les mêmes conditions que les étudiants. C'est une université qui a été fondée en 1826. C'était une réponse laïque aux universités religieuses. Et dès 1877, l'université a accueilli les femmes. Donc voilà, ils se sont tout de suite braqués sur ça, la communauté scientifique bien aussi. Alors, Monsieur Hunt a essayé de se rattraper. J'ai bien dit, il a essayé. Oui. Il a déclaré à la BBC, c'était hier, à la BBC 4, excusez-moi, « Je suis vraiment, vraiment désolé si j'ai choqué. C'est affreux. Je voulais juste être honnête. »
Alors, c'est encore pire.
Voilà, c'est pas pire, c'est le même niveau. Hein. Ouais. Voilà, le monsieur s'enfonce. C'est ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. C'est-à-dire que vous avez tous et toutes entendu ça, subi, ou en tout cas été témoin, de ces phrases que certains hommes sont en capacité de sortir l'air de rien, comme si c'était tout à fait normal.
Alors, on poursuit et on va parler un petit peu du tribunal des prud'hommes. Puisque vous avez entendu parler qu'il y avait des réformes, toujours suivant la logique néolibérale du gouvernement, soutenue notamment par les médias dominants, parce qu'il y a eu assez peu d'infos critiques hein, sur ces réformes des prud'hommes. La raison de ce qui a été fait sur la réforme des prud'hommes, la toute dernière en date, c'est que les prud'hommes feraient courir le risque de faire couler des entreprises en France. Et il faut donc limiter ces risques pour les entreprises. Ah, donc ça c'est la raison, donc ce point de vue patronal, purement patronal. Alors ce qui est bizarre dans ce qui a été fait, et je vais revenir dessus après, mais c'est que les prud'hommes servent aussi une partie des patrons. On a toujours l'impression que c'est les patrons contre les salariés aux prud'hommes. Souvent c'est effectivement des salariés qui contestent une décision de certains patrons, mais de patrons souvent malhonnêtes. Et les patrons qui sont honnêtes, eux, ils ont souvent intérêt à ce que les prud'hommes fonctionnent. Un petit exemple dans le bâtiment, les patrons malhonnêtes, ils emploient illégalement au noir donc des personnes, donc ils font baisser les coûts. Enfin voilà, dans le bâtiment, c'est assez courant. Les patrons honnêtes, eux, qui ont des vraies entreprises du bâtiment et qui déclarent les choses normalement, eux, ils ont tout intérêt à ce que les entreprises soient condamnées. Donc là, ce que fait le gouvernement en diminuant les risques pour les entreprises qui sont poursuivies au prud'homme, eh ben ça va servir que les entreprises qui trichent, sont malfaisantes. Alors c'est peut-être une grande quantité dans le bâtiment, effectivement, mais c'est pas généralisé. Donc c'est vraiment une mesure qui sont contre-productives. Alors je vais revenir sur ces mesures pour les détailler. En fait, c'est une seule mesure, c'est le plafonnement des indemnités de licenciement qui va être réalisé. Aujourd'hui, alors ces indemnités qui sont données par les prud'hommes étaient proportionnelles, ce qui est un truc en droit normal, de ce qu'avait subi le salarié suite à un licenciement illégal ou des choses comme ça. Là, sous le prétexte du frein à l'embauche et du risque de faire couler les entreprises, on limite la somme que les entreprises vont avoir à payer en dédommagement. Parce qu'il faut quand même le dire, contrairement à ce qui est paru dans les médias dominants, c'est pas des indemnités qu'on donne aux salariés quand ils gagnent, non, c'est des dommages et intérêts. C'est-à-dire que c'est pour compenser ce qu'ils ont subi, donc c'est pas du tout une indemnité. C'est dommage, ils vont être limités. Ce qui va se passer dans les entreprises, maintenant qu'elles savent, elles peuvent calculer à l'avance, et c'est le but, et c'est la défense qu'on a entendue, hein, qui a été véhiculée notamment par France Info, c'est que maintenant, les entreprises vont pouvoir savoir, quand ils licencient quelqu'un, ils vont mettre un petit pactole de côté au cas où il y a le prud'homme. Et c'est un petit pactole, ça ne les gênera jamais. Donc c'est la fin, c'est une grosse attaque, en tout cas, des droits des salariés face à l'injustice patronale. Pour l'instant, ça a été un petit peu dénoncé, notamment par le syndicat de la magistrature, par des syndicats aussi, hein, la CNT notamment dans le bâtiment et d'autres. Mais c'est à peu près tout. Et tout ça parce que une partie des médias notamment et les politiques disent que si on fait pas ça, c'est un frein à l'emploi. Il y a toujours le chantage à l'emploi qui est instrumentalisé par le Parti Socialiste, par le MEDEF et par d'autres. Donc là, je pense que nous avons pris quand même une petite claque. Donc les droits des salariés ont bien reculé face aux entreprises. Et c'est encore à moi. Je vais parler alors d'un truc complètement dingue qui est arrivé. Deux trucs en fait sont arrivés. Complètement dingue, sont arrivés en début de semaine, dans la nuit de lundi à mardi, si je ne me trompe pas. Donc on va commencer par Pierre Stamboul, qui est un des responsables de l'Union juive française pour la paix. Sont des groupes français là de juifs qui militent pour la cause palestinienne. Hein. Déjà qu'on faut saluer leur courage, parce que c'est pas facile au sein de leur communauté de faire ça. Et ben là, il leur est arrivé un truc. Enfin, lui, à Pierre, il lui est arrivé une chose incroyable. C'est que des flics ont débarqué dans la nuit de lundi à mardi dans sa maison, là où il habite. Alors, sa maison, il habite à Marseille. Alors, c'est pas n'importe quel flic qui sont venus le chercher, c'est une visite du RAID. Vous savez, les gars qui sont cagoulés, qui viennent avec des grosses mitraillettes. Bon, il a pas compris, donc grosso modo, il a eu d'abord un premier appel téléphonique. Il y avait rien au bout, il savait pas ce qui se passait. Après, les flics ont forcé l'entrée de la maison, enfin de l'environnement de la maison. Ensuite, il a ouvert la porte, ils l'ont attaché, ils l'ont bouclé, ils l'ont demandé pourquoi s'il battait sa femme, s'il avait des armes. Et bizarre, et sa femme est à côté de lui. Et là, les flics ont commencé à se dire, putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors même les flics, il y a un témoignage qui dit, un flic aurait dit, on s'est fait bananer. On comprend pas tout pourquoi. En tout cas, s'ils sont fait bananer, ils l'ont quand même amené au commissariat. C'était donc là, en début de matinée, on va dire vers 4-5, entre 4 et 5 heures. Commissariat du 8e arrondissement de Marseille, qui est un petit truc drôle dans l'affaire, qui est rue de Haïfa. Haïfa, ça se situe de l'autre côté de la Méditerranée, en Israël. Ville palestinienne, au départ. Et donc, on comprend pas tout. On a la réponse de ce qui s'est passé. Donc ils l'ont bien sûr questionné, pourquoi il tapait sa femme, tout ça. Il a dit mais je tape pas ma femme. Alors il pensait même qu'il avait tué sa femme. Du coup, ils étaient même pas emmerdés quand ils ont vu sa femme à côté de lui. Et je vais raconter après d'où ça vient. En tout cas, le préfet a expliqué. Oui, alors Monsieur Stamboul a été victime d'un canular, d'un acte malveillant. Alors lui, il a été victime de rien du tout. Hein. Enfin, de pas ça. Lui, il a été victime de la répression, des violences policières. Mais il n'a pas été victime d'un canular. C'est la flicaille qui a été victime peut-être d'un canular ou qui était contente d'avoir ce canular. Hein. Parce que alors, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a appelé la police avec le numéro de téléphone de Pierre Stamboul. Donc avec une manip de piratage internet, ils arrivent à appeler comme ça avec le numéro de téléphone en disant, en se faisant passer pour Pierre, il raconte aux flics, oui j'ai battu ma femme, ce qui n'est pas très crédible quand même. Premier appel, les flics, donc comme ils notent le numéro, ils le rappellent. C'est toujours le faux Pierre qui répond, dit oui, bah là je l'ai tué, je vous attends avec un fusil. C'est super crédible, hein, n'empêche, quand ils font ça, hein, le mec. Et les flics, bon, je pense qu'ils avaient peut-être déjà repéré ce Pierre, ils l'aimaient pas, je sais pas pourquoi. Ils envoient le RAID, donc comme quand on a un terroriste. Hein. Donc là, Pierre Stamboul est terroriste de l'Union juive française pour la paix. Incroyable. Bon, ce qui s'est avéré, c'est qu'effectivement, c'est pas un canular, c'est bien une attaque montée. Alors, tout le monde dit, c'est encore Ulkan qui est intervenu. Vous savez, c'est Grégory Shelley, qui est franco-israélien, qui est un militant nationaliste, sioniste, raciste, qui a fait plein d'attaques. On rappelle hein, l'attaque sur le journaliste de rue 89, Benoît Lecor, qui avait annoncé la mort de son père. Ensuite, il a appelé le père. D'ailleurs, le père décédera d'un infarctus quelques jours après. Alors, bien sûr, on peut pas prouver que l'infarctus est lié à ça. Mais quand on vous annonce des choses au téléphone, votre fils est mort, votre père est mort, forcément, c'est pas facile. Même s'il y a une information ouverte, judiciaire ouverte contre Grégory Shelley, rien n'est fait, il n'y a pas de demande d'extradition, pas de mandat international lancé, parce que bien sûr, c'est l'ami israélien, faut pas y toucher. Hein. Alors, vraisemblablement, c'est ça qui serait derrière cette intervention très musclé de la police. Ce qui est bizarre, c'est que la police n'enquête pas, croit la première personne au téléphone comme ça sur un truc assez peu crédible. Alors du coup, il y a entre autres un appel du journal L'Humanité qui a demandé au gouvernement des réponses. Pourquoi Bernard Cazeneuve, qui est le responsable quand même, a envoyé sa flicaille contre un militant. Et c'est pas le seul, parce qu'en fait, le lendemain est arrivé la même chose à un autre militant. Cette fois-ci, c'est un ancien responsable de France-Palestine Solidarité. Donc effectivement, il y a quand même un gros doute sur qui est à l'œuvre pour essayer de bloquer ces militants. À savoir qu'il y avait une réunion, je crois que c'était à Toulouse, sur la cause palestinienne, auquel devait participer Pierre. Donc ça explique pourquoi il y a ces militants pro-israéliens qui auraient lancé qui auraient fait ça. Bon, on verra si la police arrête. En tout cas, la police a été capable d'arrêter Pierre. Moi, je pense que la police mettra pas suffisamment de moyens pour arrêter le responsable, puisque si c'est fait de manière informatique, c'est retrouvable, bien évidemment. Mais ça, ça sera une autre histoire.
Ah ben voilà une belle histoire. On va d'abord planter le décor, l'Élysée. L'époque, vendredi dernier, les personnages, messieurs François Hollande et Akbar El Bakr.
Ah, c'est un gars du Qatar ?
Qui est-il ? C'est le patron de Qatar Airways ?
La compagnie aérienne.
La plus grosse compagnie au monde, équipée majoritairement d'Airbus. Voilà qui est posé. Et qu'apprend-on par Le Point dimanche ? Que monsieur Hollande a discrètement, très discrètement, remis la Légion d'honneur à monsieur Akbar El Bakr. Et oui.
Et il a fait quelque chose, parce que la Légion d'honneur, c'est qu'il a participé à quelque chose de grand pour la France.
Alors, tu sais quoi ? En fait, c'est une promotion. Puisqu'à l'époque de monsieur Chirac, il avait déjà reçu le grade de chevalier, c'était en 2004. Alors, c'était une cérémonie qui n'avait pas été programmée à l'agenda officiel de notre président de la République. Ça s'est déroulé en comité restreint dans le salon des ambassadeurs, hein, je vous l'ai dit, très 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 discrètement. Alors la compagnie Qatari a confirmé, hein, cette information, c'était lundi. Nous avons eu quelques quand même retours, hein. Il paraît que tout le monde s'aimait beaucoup, que tout le monde est merveilleux dans le meilleur des mondes. Alors il y en a, le meilleur des mondes quand même, ça les fait un peu réagir, hein. C'est les syndicats d'hôtesses de steward, les syndicats de pilotes, qui tous condamnent le président pour cette belle action, et puis qui s'interrogent un peu sur ce soutien quand même, hein. Un peu comme toi aussi, hein, toi.
Ouais. Bah, le Qatar, bon, c'est une compagnie aérienne, mais c'est la compagnie du pays, d'un pays totalitaire, quoi.
Alors, je vous rappelle qu'il y a aussi des rafales dans l'affaire, et qu'il y en a qui pensent un peu que on vend des rafales, mais qu'en même temps on est en train de couler Air France, puisque Qatar Airways cherche à s'installer dans beaucoup de hubs, hein, vous savez, ces centres pour les compagnies, et en particulier en France, et aurait obtenu un certain nombre d'accords prochainement pour pouvoir s'installer sur certains aéroports, pouvoir avoir plus d'avions qui atterrissent et pouvoir mettre plus de clients à l'intérieur, bien évidemment. Alors, l'Élysée a démenti, hein, ça c'est pas vrai, c'est pas pour ça, ça n'a rien à voir ni avec l'obtention de nouveaux droits pour Qatar Airways, ni en vue de marcher pour des rafales. Bon, mais il y a une autre raison aussi, hein, qui gêne un petit peu, c'est que en pleine affaire de corruption au sein de la FIFA, avec toutes les critiques qui ont été amenées sur cette Coupe du Monde de football au Qatar, c'est pas très beau.
Non.
C'est pas très chouette, puisque comme tu le disais, on est sur une nation où tout est lié. Donc voilà, c'est pas très beau, et surtout que c'est encore moins beau puisqu'ils font ça en cachette, donc en fait ils le savent que c'est pas beau. C'est ça aussi qu'il faut dire.
Alors on va revenir sur TAFTA, vous savez, c'est ce traité entre la France et les États-Unis d'Amérique sur la libéralisation du commerce. Et il est arrivé un truc incroyable, enfin incroyable, un petit aléa, on va dire, dans la gestion du traité, c'est que le Parlement européen devait prendre position hier sur le TAFTA. Et donc on attendait qu'ils disent oui, tout va bien, et ben ils ont ajourné le vote, c'est repoussé plus loin. Alors ça, la raison c'est quoi ? Ben c'est que les députés qui sont pro-TAFTA, faut quand même le dire en majorité, en tout cas on le sent bien comme ça, estiment ne pas avoir assez d'informations sur ce qu'il y a, et qu'il n'y a pas assez de transparence dans les négociations. Vous imaginez, même des pro-TAFTA trouvent que quand même, là, c'est pas terrible. Alors, je vous explique pourquoi. Donc, le traité est négocié donc par l'Union européenne et les États-Unis. C'est était annoncé donc hier le rapport d'initiative pour faire un bilan de l'avancement de la négociation avec les États-Unis d'Amérique. Bon, ça a fait réagir parce que, grosso modo, les élus n'ont pas accès au contenu des négociations. Alors, c'est pas le Parlement qui négocie, c'est la Commission européenne qui va négocier. Le Parlement, lui, à la fin, va juste dire oui ou non. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'absence de, dans le déni de démocratie de ces traités économiques, c'est qu'effectivement, la Commission européenne, qui n'est pas élue, va négocier et sort un accord signé par les deux parties. Et après, l'accord doit être validé par le Parlement européen. Mais le Parlement européen ne peut pas le modifier. Donc, il doit juste dire oui ou non. Du coup, ça explique qu'à la fin, vu l'état des forces politiques, l'accord est sûr d'être validé par le Parlement européen. Donc là, il y a quand même une réaction de la part des élus, même pro-TAFTA, qui disent bon, il faudrait quand même qu'on ait un peu de temps, qu'on ait accès au texte. Il faut dire que aujourd'hui, l'accès au texte est très très compliqué, puisqu'il faut demander une autorisation. Il y a un bureau, on a le droit de rentrer seul, accompagné d'un fonctionnaire. On ne doit pas avoir de téléphone, pas prendre d'image, pas enregistrer, rien. Grosso modo, il faut rien dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est un énorme démocratie, hein, ce traité bilatéral, mais bon, voilà. Ça a quand même choqué. Alors, ça va être repoussé en juillet, j'imagine que ça va passer, hein, parce que a priori, bon, le Parti Socialiste et les forces réactionnaires de la Commission européenne sont, elles, plutôt pour ce traité transatlantique, même si il y a de la résistance un petit peu, alors pas trop en France, hein, mais il y a de la résistance dans d'autres pays en Europe, et ce qui gêne le plus d'ailleurs les élus, c'est le fameux problème des tribunaux privés. On rappelle, c'est ce qui a permis de condamner des États, notamment sud-américains, quand ils avaient des politiques de santé publique contre l'alcool ou contre les cigarettes, et que les entreprises des cigarettes portaient plainte devant ces tribunaux et gagnaient. Donc c'est ce qui va nous arriver. Et là, il y a une partie des élus, même de droite, même réactionnaires, même conservateurs, qui disent que il n'y a pas besoin de ces tribunaux, puisque aussi bien du côté européen que du côté américain, états-unien, il y a une justice qui fonctionne et les entreprises peuvent très bien aller devant ces justices qui fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est quand même un espoir, même si à la fin, je suis pas sûr que ces tribunaux ne fassent quand même pas partie du TAFTA. Il y a ce sujet-là est pas forcément majoritaire. Le dernier dispositif qui lui est pour l'instant majoritaire, enfin dans ce qu'on en sait, ce qu'on sait de l'avis des gens de la commission et des élus, c'est le projet de coopération réglementaire. Donc l'idée, c'est d'avoir une harmonisation en matière d'environnement, notamment de santé et d'agriculture. Alors c'est toujours vers le bas qu'on fait les harmonisations. Donc les OGM sont pas trop autorisés chez nous, autorisés aux États-Unis, on va tout autoriser chez nous. Quand on trempe les volailles des produits chimiques pour les vendre, c'est pas autorisé chez nous, c'est autorisé aux États-Unis, ça sera autorisé chez nous après. Voilà. Bon, juste pour finir sur l'opposition, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément d'opposition dans les deux partis majoritaires aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a une loi américaine qui fait que quand il y a un service public passé et que c'est de l'argent public, ce sont forcément des entreprises américaines qui peuvent avoir ces marchés. Or, avec ce TAFTA, c'est fini tout ça. Donc, a priori, quand même, la majeure partie de l'opposition politique, elle est plutôt aux États-Unis d'Amérique, chez les démocrates et chez leurs ennemis, les républicains. Donc, on a peut-être un espoir que ça capote juste pour ces questions-là, ce qui nous ferait quand même pas mal plaisir.
Alors, on va parler du paquet neutre de cigarettes. Vous savez qu'il va devenir neutre en mai 2016. Eh ben, ça provoque des manifestations en Indonésie. Et là, vous me dites, mais pourquoi donc ? Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est le cinquième producteur mondial de tabac. Donc, c'est le deuxième employeur du pays. C'est très important, le tabac en Indonésie au niveau économique. Alors, les premiers, c'est la Chine, l'Inde et le Brésil. L'Indonésie produit 227 000 tonnes de tabac par an, hein, c'est pas rien. Alors, ce sont mardi plusieurs centaines de producteurs de tabac qui se sont rassemblés à Jakarta contre l'instauration du paquet de cigarettes neutres en France. C'est bien la France qu'ils visaient, puisqu'ils se sont réunis devant l'ambassade de France. Alors, ils répondaient à l'appel de l'association des producteurs de tabac, qui représente environ 2 millions de personnes. C'est, donc je vous le disais, un secteur très très fort. Il y a des questions qui se posent, vu qu'évidemment c'est un secteur très fort, c'est de savoir par qui a vraiment été organisé ce rassemblement. Est-ce qu'il y aurait les industriels du tabac derrière? C'est des questions que certaines organisations se posent, et que certains journalistes aussi peuvent se poser sur place. Bon, il faut savoir qu'en Indonésie, il n'y a pas de campagne contre le tabac, ça n'existe pas, il n'y a pas de campagne de santé publique, le tabac c'est pas cher. Donc en plus, voilà, il n'y a pas cette idée, cette propagande, cette culture en ce moment, le tabac c'est mauvais pour la santé. J'ai culture ou propagande, comme ça vous choisissez dans quel temps vous êtes. Alors, les manifestants ont des grandes idées, moi je trouve, puisqu'ils ont proposé des mesures de rétorsion contre la France. Ils proposent que les bouteilles d'alcool des Françaises soient neutres aussi, vous voyez, que le vin en fait et que des étiquettes neutres comme le tabac. Pourquoi pas. Après tout, on va mettre tout le monde d'accord. Alors, il n'y a pas que l'Indonésie qui réagit, mais c'est le pays qui réagit le plus activement, puisque l'Indonésie a déposé une plainte en septembre 2013 pour dire c'est un frein au commerce international. Donc c'est une plainte qui s'est portée contre l'Australie, puisque l'Australie c'est le premier pays au monde à avoir opté pour le paquet de cigarettes neutres. C'était fin 2012, mais il y a d'autres pays qui pourraient suivre l'Indonésie. On parle de l'Honduras, de Cuba, de l'Ukraine, qui pourraient aussi engager des poursuites contre l'Australie, et donc peut-être contre la France. Alors il y a d'autres pays qui pensent à ce paquet neutre. En Europe, il y a l'Irlande, par exemple. Bon, on va voir ce que ça donne. Il paraît qu'en Australie, la consommation a baissé grâce à ce paquet neutre. Bon, et on verra si toutes ces mesures font effectivement baisser la consommation. Mais en tout cas, ça fait réagir le bout du monde. C'est ça, la mondialisation.
Ouais. Alors, une petite rubrique, maintenant, que j'avais appelée Le monde agricole mortifère contre le peuple, avec différentes infos. La première, c'est une info médicale, puisque la France, les services français de l'État, viennent de reconnaître un cancer du système immunitaire, le lymphome malin non Hodgkinien, comme une maladie professionnelle. Et ça concerne donc les agriculteurs qui ont cette maladie parce qu'ils ont été exposés aux pesticides dans le cadre de leur métier. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est une nouvelle inscription. La dernière inscription aux maladies professionnelles dans le domaine de l'agriculture remontait à 2010, on en avait parlé à l'époque, quand la maladie de Parkinson, qui est provoquée par les pesticides, y avait été inscrite. Donc c'est une nouvelle reconnaissance médicale de la dangerosité des pesticides, notamment sur les travailleurs de l'agriculture et donc les agriculteurs. Donc ça, c'est l'info du jour. Et en même temps, aujourd'hui, ou peut-être hier, la FNSEA envoie un gros communiqué à ses adhérents en leur donnant une lettre qui s'appelle, qui est intitulée Monsieur le ministre, nous voulons un plan éco-phyto pragmatique. Et vous avez une lettre, et les adhérents de la FNSEA doivent envoyer cette lettre au ministre. Alors, le plan phytosanitaire, éco-phyto, comme il s'appelle, c'est effectivement la gestion des intrants chimiques, des pesticides, des produits toxiques, et ils sont tous quasiment toxiques, qu'utilisent les agriculteurs. Et la FNSEA demande à ce que ce plan soit réaliste, c'est-à-dire qu'on arrête de baisser, de faire pression pour qu'ils diminuent l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Il faut savoir que, alors, ils ont même une commission environnement, la FNSEA. Alors, c'est pas une commission de protection de l'environnement, j'ai envie de dire, mais ça ressemble plus à une protection de destruction de l'environnement. Et le responsable, il s'appelle Éric Thirouin, lui nous explique bien que réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 25% en 2020 à 50% en 2025 est irréaliste. Ah, pourquoi c'est irréaliste? Parce que lui, il dit, parce qu'après, on va produire moins. Alors déjà, on a de l'excédent agricole, donc si on produit moins, c'est pas si grave que ça. Et si on produit pour que les gens soient malades, pour que 50% des rivières soient polluées par les produits toxiques, cancérigènes, toxiques pour la reproduction, que balancent la FNSEA et leurs adhérents, c'est pas grave. On préférera peut-être manger moins, mais être moins malade, parce que quand on a son petit cancer, c'est quand même pas super sympa, messieurs de la FNSEA. Donc voilà. Alors après, il nous explique, il y a toute une propagande qui est énorme, moi je trouve, parce que je pense qu'en bonimenteur ou en menteur tout court, ils sont a priori champions du monde, puisqu'ils nous disent, attention, rappelons que les agriculteurs aiment leur terre et font leur métier avec passion, désireux de produire plus et mieux, engagés dans le respect de l'environnement et de la santé de leurs concitoyens. Bah, s'ils sont respectueux de la santé de leurs concitoyens, ils n'utilisent pas des produits cancérigènes. Ah bah si. Ah mais bon bref. Si vous avez déjà vu des analyses du sol de l'agriculteur productiviste, quand on creuse sur les 10 cm sur lesquels poussent les plantes, il n'y a aucun élément vivant dans le sol. Ça pousse sur de la terre morte. Alors que quand vous prenez une vraie terre, il y a des milliers, des millions d'organismes, il y a des vers de terre. Alors les vers de terre, les agriculteurs ne connaissent plus. Hein, ils ne savent pas ce que c'est. Enfin, les agriculteurs de la FNSEA, les productivistes, les bio connaissent. Enfin voilà, il y a une énorme propagande quand même du monde agricole. Et alors, dans la série La propagande du monde agricole, ils sont quand même très très forts. Hein. Et c'est des lobbies finalement. Parce que, alors la FNSEA, c'est un syndicat non pas de travailleurs, hein, c'est un syndicat de patrons. Hein, donc ils sont du côté du patronat. Et on a aussi le syndicat viticole qui intervient avec une organisation qui s'appelle Vins et Sociétés. Donc c'est un lobby hein, qui est là pour faire pression sur les élus. Et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire hier soir ? Un truc pas mal, c'est qu'il y avait une discussion de la loi Macron, et la loi Macron permet de casser toutes les lois qui protègent les salariés, l'environnement, tout ce qu'on peut imaginer qu'on avait un peu de protection, puisqu'ils vont revenir sur la loi Evin, ils sont revenus sur la loi Evin, qui limite quand même la publicité sur l'alcool. Alors quand vous regardez, vous vous promenez dans les rues de Lyon, vous verrez qu'il y a de la pub partout pour l'alcool quand même. Donc déjà la loi Evin, elle limite pas tant que ça. Mais elle limite quand même, notamment puisque y a des règles très précises sur la propagande des boissons alcoolisées. Et ils sont arrivés à faire passer, en faisant pression sur les élus, sur les députés, et contre l'avis du gouvernement d'ailleurs, un amendement qui fait la distinction entre information et publicité. Donc la publicité est régulée par la loi Evin, l'information ne le sera pas. Donc il suffira de faire une pub, mais qui sera de l'information, c'est-à-dire en mettant information. Alors dans mon vin, je vous informe qu'il y a du raisin, des tanins, des machins, et là, d'un seul coup, vous avez plus de limitations possibles. Moi je dis bravo, parce que ils sont arrivés à plier cette loi qui est, dont le but est de limiter un petit peu la consommation d'alcool, en tout cas d'empêcher la propagande de l'alcool par les lobbies industriels. Voilà, ben je crois que la loi elle est enterrée, je crois maintenant. Voilà, bravo.
Oui, et puis
un beau lobby. Hein.
Toute façon, l'agroalimentaire, c'est très très bien faire ça depuis déjà pas mal d'années. Hein. McDonald's, Nestlé, tous ces gens-là sont spécialistes, donc les autres vont suivre. Tout ça est très très bien fait. Moi, ouais. Je dis, tout ça est très très bien fait.
Et surtout quand on réfléchit, est-ce qu'ils ont besoin de faire de la pub tout le temps pour l'alcool pour que les gens consomment de l'alcool? Je suis pas sûr que ça influence tant que ça, mais a priori si. Peut-être que nous, on n'est pas sensible à la pub et qu'on s'en rend pas compte et qu'on est plus sensible à l'alcool qu'on boit, à la rigueur. Mais ça reste quand même bizarre d'être focalisé là sur cette absence de possibilité de faire toutes les pubs qu'on veut partout où on veut. Bon, après on pourrait rêver d'un monde sans pub, mais c'est pas ce que veulent les agriculteurs du lobby viticole. Ça s'appelle Vins et Sociétés, si vous voyez cette organisation. C'est un lobby professionnel, c'est-à-dire patronal, là, bien évidemment. Alors on va faire un petit mot pour dire qu'un grand musicien est mort aujourd'hui à 85 ans. C'était un compositeur de jazz, Ornette Coleman. Donc il était né au Texas, mais bien évidemment pour faire sa musique, il est parti du Texas. Il avait fait toute sa carrière dans les clubs de jazz à New York. Enfin, dans les clubs de jazz à New York, il a tourné partout dans le monde. Hein, on l'a vu dans la région plusieurs fois. Ornette Coleman, c'est un des précurseurs. Alors c'est pas l'inventeur, parce que ils étaient plusieurs à être dans cette mouvance-là, mais c'est en tout cas celui qu'on associe au premier disque de free jazz. Vous savez, ce jazz qui sort d'une espèce de routine avec, on joue le thème et ensuite on improvise, avec en suivant des règles harmoniques. Là, le free jazz, il n'y avait plus de règles. Hein, et on avait une musique totalement libre. Hein. Donc il a inventé, avec ses amis jazzman, il n'était pas tout seul, cette liberté dans le jazz. Alors ça en fait une musique très très difficile à écouter, bien évidemment, puisque elle répond pas aux règles standards. Je vous parle du jazz, alors si on compare à la pop ou à la variétoche où on a couplet refrain, là même déjà le jazz normal, c'est un monde qui est inaccessible. Alors je vous parle pas du free jazz, hein. Mais en tout cas voilà, c'est un phénomène important dans le monde de la musique, le free jazz. C'est la version moderne, hein, du jazz, on peut dire après les années 60. Et voilà, et c'était un grand, grand musicien. Il sortait encore des disques, hein, à 85 ans. Et voilà, bah, on a une petite pensée pour Ornette Coleman, qui a eu une grosse importance dans la musique. Alors en ce moment, les vieux musiciens meurent. On a eu B.B. King, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a eu une grosse importance dans le blues, lui. Avec une musique beaucoup plus écrite, tout en étant improvisée quand même, mais avec plus de règles, hein, que le free jazz. Donc voilà, c'était pour dire qu'on était un peu triste quand même de perdre ce musicien. Et puis, il nous reste quelques minutes, on va faire un petit agenda. Moi, je n'ai noté qu'une seule chose dans l'agenda, c'est qu'il va faire beau. Ah non, c'était pas ça. Ça, c'était la rubrique météo. Alors, comme on n'est pas sexiste à Radio Canu, c'est moi qui fais la rubrique météo. Voilà, il va faire beau, je vous l'annonce. Partout, sur la place Colbert notamment.
On espère.
Ouais.
Non, mais... Là, on fait de la propagande, parce que samedi, vous pouvez venir, ça sera le seul et l'unique repas de quartier de Tiens-Bon-la-Pente pour cette saison.
Peut-être en septembre aussi.
Voilà, mais enfin, en tout cas, pour cette première partie d'année, ça sera le seul et l'unique, mais il est beau, il sera beau, ce repas de quartier. Vous pouvez, comme d'habitude, donc venir avec à boire et à manger, tout ça sera à partager. Vous pouvez venir avec vos pétanques, vous pouvez venir, voilà, vous
vos
amuser.
Boules, vos boules de
pétanque. Voilà.
Vos jeux de cartes.
Vos jeux de cartes, vous venez en famille, entre amis.
Alors, faut amener, alors il y aura des tables et des chaises, mais faut amener à boire, à manger, des petites assiettes et des couverts, c'est pratique pour manger, parce que quand on vient des repas de quartier, c'est le truc qu'on oublie un petit peu des fois.
Après, moi je dis, il y a des tables et des chaises, mais dans les repas de quartier, quand tu viens parfois avec ton petite chaise de camping...
Ah oui, t'as des chaises de camping, toi?
Et ben, ça permet quand même des fois de pouvoir offrir aussi à d'autres gens pour s'asseoir, et puis s'asseoir soi-même à un moment, voilà.
Et vous pouvez amener des raquettes de ping-pong et des balles de ping-pong, puisque maintenant, place Colbert, il y a une table de ping-pong.
Oui, un soir, les ovnis sont arrivés, et nous avons donc découvert dans le quartier une table de ping-pong, ouais. Magnifique.
Je crois que ça vient de Mars, mais on n'en était pas sûr. C'est peut-être un complot. Enfin, bon, on ne sait pas, en fait. Donc voilà.
C'est entre 11h et 16h-17h. Voilà, venez nombreux. On espère qu'il fera beau. Voilà, ça permet toujours aussi d'occuper cette place, comme bien d'autres, hein, mais voilà, d'être aussi en extérieur. Et puis d'être nombreux et de se rencontrer. Voilà.
C'est sur la place Colbert. Et alors, il y a toujours un espace de gratuité dans lequel les gens qui ont des choses à donner, mais qui sont pas à jeter, viennent le mettre sur cet espace-là. Alors, comme il n'y a pas les bennes du quartier, ce mois-là, sont place Rambaud.
Ce qu'on appelle une déchetterie mobile maintenant.
Oui, enfin bon, c'est voilà. Les bennes, quoi. On acceptera dans la zone de gratuité que les vêtements, parce qu'après, on peut aller les redistribuer.
Ceux et celles qui en ont besoin ailleurs. Voilà.
Et qui
on
se
fait
font,
suivre.
Ceux qui se font. Celles et ceux qui se font expulser là, régulièrement, on sait quand même où ils se trouvent et on leur amène ce qui reste de vêtements. Donc voilà, c'est Place Colbert, samedi à partir de 11h.
Voilà, nous on pourra dire que nous ne serons pas là la semaine prochaine puisque
exceptionnellement.
L'un d'entre nous va secouer la tête dans un festival de musique renaissance. On souhaite à cette personne de passer un agréable moment.
Oui.
On se retrouvera la semaine d'après et nous aurons des invités, nous parlerons de la métropole de Lyon.
Voilà, rendez-vous donc un jour. Tout de suite, la petite cuillère.
Ciao, ciao.
Bye, bye.